Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
Oh, mais j'adore l'abstrait!
Vous parlez des fesses de votre grand-mère.
C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme.
Un régal de culpabilité chrétienne.
Vous savez qu'elle fait de la peinture.
Pourquoi la dame, elle est toute nue?
Coucou, vous! Bienvenue dans Vénus s'épilait-elle la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Dans ce premier épisode, on va parler des autoportraits féminins. Un autoportrait, c'est un ou une artiste qui se représente. Et on connaît assez bien l'histoire de l'autoportrait en général, mais surtout parce qu'on la connaît à travers les artistes masculins. Et ça, c'est un petit peu fâcheux, surtout quand on sait que les femmes artistes, traditionnellement, ont été limitées à des seconds rôles, à des rôles de faire-valoir, comme la muse ou le modèle. Donc pour les femmes artistes, faire des autoportraits, c'était aussi sortir de cette passivité, et c'était affirmer leur identité, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste. Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire des autoportraits féminins, c'est que ça en dit long aussi sur le statut des femmes artistes à travers les époques, et notamment sur la formation qu'elles avaient ou non le droit de recevoir. Pour en parler, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Frances Borzello, qui est historienne de l'art et autrice. Elle travaille sur les autoportraits féminins depuis une trentaine d'années, et elle leur a consacré un livre, « Femmes au miroir », qui vient d'être réédité.
Je me suis beaucoup intéressée aux femmes artistes parce que j'étais féministe et dans ma vie, le féminisme est arrivé au même moment que mes études. Et j'ai trouvé l'histoire de l'art très, très bête en tant que sujet. La façon dont on l'enseignait, ce n'était pas vraiment exigeant intellectuellement. Et j'ai commencé à m'interroger sur les femmes artistes et c'était au tout début. Il y avait vraiment très peu de choses écrites sur ce sujet. Je suis tombée sur un ou deux autoportraits et j'étais fascinée. Et en tout, il y avait peut-être cinq ou six autoportraits dans les très rares livres qui étaient disponibles à l'époque. Et je me suis dit, il y en a forcément plus.
On a déjà des témoignages de femmes artistes qui font leur autoportrait dès l'Antiquité, donc c'est pas une affaire récente. Mais le problème, c'est que plein d'œuvres se sont perdues. En fait, les autoportraits féminins les plus anciens qu'on connaît aujourd'hui, c'est des religieuses du Moyen-Âge qui se sont dessinées dans les manuscrits qu'elles enluminaient. Et il y a plein d'exemples comme ça, c'est assez mignon d'ailleurs, d'artistes qui se sont représentés un petit peu en douce dans leurs œuvres. Mais c'est vraiment à partir du XVIe siècle que l'autoportrait, tel qu'on l'entend aujourd'hui, commence à se développer. Une des raisons, c'est qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas la photo, donc ça arrivait que les artistes s'échangent des autoportraits en signe d'affection, voire un petit peu plus. Il y a une deuxième raison qui est un petit peu moins romantique, c'est qu'à partir du XVe siècle, surtout en Italie, ça devient le comble du chic de collectionner des portraits de personnes célèbres. Donc ce que font les artistes, c'est simplement faire de plus en plus d'autoportraits pour répondre à la demande des collectionneurs.
Il y a une mode qui avait vraiment commencé dans les années 1600. C'est à ce moment-là que la galerie des Uffizi à Florence a démarré sa collection d'autoportraits. C'était de la curiosité avant tout. On voulait voir à quoi ressemblaient tous ces artistes extraordinaires. Et si c'était une femme artiste, évidemment, c'était encore plus exceptionnel et plus rare.
La thèse de Frances Borzello, c'est que les femmes artistes ont été soumises à tellement de contraintes pour se représenter qu'elles ont fini par créer un genre à part entière et qu'on devrait étudier les autoportraits féminins comme une catégorie spécifique de l'histoire de l'art. Pour bien comprendre toutes ces contraintes, il faut imaginer qu'à l'époque, le monde de l'art, et le monde en général d'ailleurs, était totalement dirigé par les hommes. C'était les hommes qui avaient la liberté de voyager, donc de se faire des contacts, qui avaient assez d'argent pour passer des commandes, et surtout, pendant des siècles, l'enseignement artistique était réservé aux hommes. Dans ce contexte, c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes artistes de faire leur autoportrait, parce qu'elles devaient respecter toutes ces conventions sociales et surtout pas donner aux hommes l'impression qu'elles allaient prendre leur place.
Je crois qu'au XVIe siècle, les femmes artistes étaient conscientes qu'elles sortaient du cadre réservé à la plupart des femmes et qu'elles devaient être très prudentes, parce qu'à l'époque, la vie des femmes était dirigée par l'Église, par les conventions, et il fallait que les femmes soient modestes. Mais être artiste, ce n'est pas être modeste. C'est faire un travail, bien sûr, et le faire bien, mais c'est un travail qui va attirer l'attention. Vous allez attirer l'attention. Et je pense que les femmes artistes ont eu beaucoup de difficultés à trouver comment attirer le bon type d'attention.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'au même moment, les artistes masculins, quand ils représentent des femmes, montrent souvent des figures orgueilleuses qui mettent en avant leur beauté. C'est le cas de Vénus, par exemple, qui est souvent utilisée pour montrer une femme nue qui est en train d'admirer sa beauté dans un miroir. Donc finalement, il y a assez tôt cette idée de double standard créée par le regard masculin, avec d'un côté ce que les hommes peuvent faire quand ils représentent des femmes, et de l'autre côté ce que les femmes peuvent faire quand elles se représentent elles-mêmes et qui est un petit peu plus limité.
Je dirais qu'il y avait un marché et un état d'esprit où la valeur des femmes reposait sur leur beauté et même parfois le côté sulfureux de leur beauté. Comme ça, si on était un homme, on pouvait ensuite leur reprocher son propre mauvais comportement. Une femme artiste au physique moyen, ni belle, ni moche, quelles étaient ses options? Je pense qu'elle optait pour la modestie, en particulier au XVIe siècle. Vous voyez, les hommes faisaient des portraits de femmes riches de l'aristocratie. Et comme il ne fallait pas qu'elles aient l'air trop provocantes, on les représentait de façon assez conventionnelle. Riches, bien sûr, mais conventionnelles. Et je pense que les femmes artistes ont suivi cette voie-là. Elles ont préféré ignorer toutes les représentations très ostentatoires des femmes qui existaient à l'époque.
Quand j'ai compris à quel point c'était compliqué pour les femmes artistes de se représenter et toutes les stratégies qu'elles avaient dû mettre en place, je me suis demandé si peut-être on avait des traces de correspondance où elles s'échangeaient tous ces conseils diplomatiques.
Il n'y a pas d'exemple de ça. Et je pense que c'est en partie à cause du contexte social de l'époque. Imaginez, si vous étiez une femme artiste admirée au XVIe siècle, ça devait être très appréciable d'une certaine façon. Vous étiez importante, talentueuse, tout le monde ne parlait que de vous. Peut-être vous n'aviez tout simplement pas envie d'avoir une rivale. Donc non, il n'y a aucune trace de ce type de correspondance. En revanche, on a des archives qui montrent que s'il y avait une artiste plus âgée, l'ambition des artistes plus jeunes était d'être au moins aussi bonne qu'elle. Mais je ne pense pas que c'était les femmes qui réfléchissaient de cette façon. Il y a des indices qui montrent que la société masculine n'acceptait qu'une seule femme artiste à la fois. On aimait l'idée de la femme exceptionnelle, il y avait de la place pour ça. Ce qu'on ne voulait pas en revanche, c'est un grand nombre de femmes. Et ça, je crois que les femmes l'avaient compris.
Un de mes autoportraits préférés, c'est celui de Sophonisba Anguissola, où elle se représente comme si c'était son prof qui était en train de faire son portrait. On voit le gars qui est de trois quarts en train de finir le portrait de Sophonisba, mais en fait c'est vraiment elle qui occupe presque les deux tiers du tableau. Et c'est un moyen tellement intelligent, parce qu'en fait ça lui permet de se représenter elle, en flattant l'ego de son maître, pour qu'on puisse pas lui reprocher sa vanité à elle. Mais même si c'est très malin, je trouve ça quand même un peu gros. Et j'ai demandé à Frances Borsello si le prof en question était conscient de la supercherie ou si au contraire il était juste content d'être flatté.
La réponse c'est que j'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'elle a eu une idée excellente, elle l'a peinte et c'est merveilleux. Mais pour le reste, vraiment, je ne sais pas. J'ai fait des recherches, bien sûr, mais je ne sais pas à qui appartenait ce tableau. On n'en sait pas assez sur les femmes. Un des problèmes qu'on a identifié grâce au féminisme dans les années 70, et que je n'ai jamais oublié, c'est que les femmes n'ont pas laissé de traces. On ne pensait pas que ça valait assez la peine d'écrire sur les femmes, on se disait que c'était suffisant d'applaudir, de s'émerveiller, qu'il y ait des femmes artistes, mais personne n'a documenté leur vie ni leur travail. Personne n'a tenu un journal sur leurs activités. Elles n'avaient pas de compagnons qui écrivaient tout ce qui les concernait. Et c'est ça qui rend la recherche très difficile.
Ce manque de documentation, c'est un problème récurrent quand on s'intéresse à l'histoire des femmes artistes. Et c'est encore pire avant le 19e siècle, parce que comme les femmes n'avaient pas accès à des formations, on n'a pas les registres d'école qui permettraient d'en savoir un peu plus comme pour les hommes. Mais ça veut pas dire que les femmes artistes se formaient pas du tout, c'est juste qu'elles ont dû ruser et trouver des moyens détournés. Par exemple, c'était assez courant que les femmes artistes soient des filles de peintres. Et en fait, c'est assez logique, parce qu'elles pouvaient regarder leur père travailler, se former auprès de lui si ça leur plaisait, et ensuite reprendre l'atelier. Et comme il fallait faire avec les moyens du bord, certaines femmes artistes ont aussi utilisé l'autoportrait comme un moyen de se former.
J'imagine qu'un homme qui vivait dans un village reculé, sans accès à la ville, aurait pu se prendre lui-même comme modèle. J'imagine. Mais il y avait tellement plus d'opportunités pour un homme. Les femmes n'ont pas eu droit à une formation digne de ce nom avant la fin du 19e siècle. Où est-ce qu'elles allaient apprendre à peindre ? J'ai d'abord écrit un livre sur l'histoire des femmes artistes depuis la Renaissance. Et en fait, c'est comme ça qu'est né mon livre sur les autoportraits, parce que je voulais étudier la façon dont les femmes accédaient à une formation. Et la vérité, c'est que c'est assez pathétique. Elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient de tous les côtés pour arriver à se former. Et c'est une autre raison pour laquelle j'admire tant les femmes artistes. Je ne m'intéresse pas à elles parce qu'elles sont meilleures que les hommes ou parce que ce sont des génies. Ce qui m'intéresse, c'est leur contexte. C'est comment elles ont réussi dans ce contexte à se former malgré tout. Donc, je pense que c'était vraiment caractéristique pour les femmes artistes de se servir d'elles-mêmes et de leur famille comme modèle. C'était plus facile.
Au XVIIe siècle, il y a un changement majeur dans l'histoire de l'art occidental avec l'art baroque. Pour bien comprendre comment ça s'est passé, il faut faire un peu d'histoire et revenir un siècle en arrière. En fait, à cette époque, l'essentiel de la production artistique est encore surtout religieux. Et le but de l'art, principalement, c'est de susciter la foi des fidèles et de raconter la vie du Christ et des saints. Mais les artistes commencent à prendre de plus en plus de liberté, ce qui donne lieu à des chefs-d'œuvre absolus comme la chapelle Sixtine de Michel-Ange à Rome. Mais justement, ce qu'on reproche à ces artistes, c'est de produire un art trop riche, trop sensuel, qui pousse à adorer les images elles-mêmes plutôt que les histoires qu'elles sont censées raconter. Ça commence à gronder d'abord en Allemagne, avec Martin Luther qui initie la réforme protestante. Et une partie de cette réforme, c'est justement de promouvoir un art qui soit beaucoup plus modeste, beaucoup plus dépouillé, entre guillemets, qui soit pas de l'art pour l'art, mais qui soit vraiment un art éducatif. Tout ça donne lieu à des décennies de débats, je vous passe les détails, mais en gros, personne n'arrive à s'entendre, les protestants partent de leur côté, et les catholiques se disent que finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de commencer à représenter les textes avec un peu plus de rigueur. Ils décident d'attribuer à l'art religieux trois missions, enseigner, émouvoir et convaincre. Et comme le but c'est de provoquer l'empathie des fidèles et de les impressionner, ça donne un art pas du tout modeste, au contraire. Ça se traduit par des mises en scène un peu spectaculaires, par des expressions appuyées, voire exagérées, et la conséquence de tout ça, c'est que ça ouvre des possibilités de représentation qui sont totalement nouvelles pour l'époque. Et ça a eu des effets très concrets sur les autoportraits.
C'est seulement au XVIIe siècle, grâce à l'art baroque, que les femmes artistes ont pu être un peu plus libres dans leurs mouvements. Elles ont pu commencer à se dire, comme Artemisia Gentileschi, « Oh tiens, peut-être que je pourrais me représenter comme ça, avec mon bras levé, comme si j'étais en train de peindre. » Donc, il ne s'agit pas uniquement des femmes elles-mêmes, c'est aussi ce que les femmes ont le droit de faire dans un contexte donné. Elles étudient leur environnement et les codes de représentation. C'est ce que font tous les artistes d'ailleurs. C'est très difficile d'être totalement original. Et en examinant leur contexte, les femmes artistes se demandent ce qu'elles peuvent faire avec tous les éléments dont elles disposent. Je pense que ça, c'est vraiment très intelligent.
En France, jusqu'aux années 1860, l'enseignement artistique passe surtout par l'Académie royale de peinture et de sculpture, créée sous Louis XIV. Et entre sa création et la Révolution, 200 ans quoi, seules 15 femmes auront l'immense honneur d'être admises dans ce petit boys club. Sophie Chéron fait partie de ces élus, et on a conservé très peu de ses œuvres, mais on sait qu'elle avait plusieurs talents qu'elle a essayé de représenter dans ses autoportraits. Elle en a fait au moins deux où elle tient une partition dans la main, ce qui est une façon de montrer qu'elle était non seulement peintresse, mais aussi musicienne. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les autoportraits féminins, surtout de la Renaissance au XVIIIe siècle, parce que comme les femmes artistes devaient tout le temps faire leurs preuves, montrer qu'on avait plusieurs talents, c'était aussi un bon moyen de se distinguer. En fait, les femmes n'étaient pas interdites à l'académie, mais comme c'était une institution dirigée par des hommes et dont l'immense majorité des membres étaient des hommes, c'était plus compliqué pour les femmes d'y rentrer. En fait, c'est pas si différent d'un tas d'institutions qui existent encore aujourd'hui. Et pour les rares femmes qui arrivaient à infiltrer l'académie, c'était toujours un peu le parcours de la combattante parce qu'elles étaient limitées dans leur apprentissage. À cette époque, les modèles qui posaient nus, c'était essentiellement des hommes. Et comme on avait très très peur que les étudiantes voient un pénis, on a décidé que le plus simple, c'était de leur interdire ces cours. Mais ça a eu des conséquences très concrètes pour les femmes artistes, parce qu'à cette époque, les genres de peinture sont classés en fonction d'une hiérarchie très stricte. Et tout en haut de cette pyramide, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire. C'est une peinture qui traite essentiellement de sujets mythologiques ou historiques, et donc qui représente la plupart du temps des dieux à moitié nus, enfin surtout des déesses à moitié nus. Mais comme les femmes n'avaient pas accès aux cours qui permettaient justement d'apprendre l'anatomie humaine, c'était très compliqué pour elles de faire de la peinture d'histoire et donc d'accéder au statut de grande artiste. Et à cause de ça, la plupart des femmes artistes étaient cantonnées à des genres de peinture qui avaient moins de prestige, comme les portraits, les natures mortes ou les scènes de genre qui représentent des anonymes du quotidien. Une de mes artistes préférées, c'est une peintresse hollandaise du XVIIe siècle qui s'appelle Clara Peters. Elle a fait plusieurs autoportraits qui en disent assez long sur le statut des femmes à son époque, mais celui que je préfère, c'est un autoportrait qui ressemble pas vraiment à un autoportrait. En fait, c'est une nature morte avec plein de gamelles, des fruits, des fleurs, enfin comme une nature morte quoi. Et Clara Peters a peint son visage dans le reflet des coupes en métal. Donc on a l'impression d'être face à une nature morte, très très belle certes, mais assez classique, et c'est uniquement quand on reste assez longtemps, quand on prend le temps d'observer tous les petits détails, qu'on se rend compte que c'est un autoportrait.
C'est très inhabituel cette façon de faire. Mais en même temps, c'est quelque chose qui existe déjà dans la peinture flamande, que les artistes masculins ont parfois à l'époque. Quand on regarde très attentivement ces magnifiques natures mortes flamandes, on voit que l'artiste s'est représenté, parfois dans le reflet d'une fenêtre, parfois, on le voit juste de dos pour montrer qu'il est face à la scène, en train de peindre cette œuvre. C'est très spécifique à la Hollande, cette façon pour les artistes de laisser un petit peu d'eux-mêmes dans leurs œuvres. Mais Clara Peters a vraiment exploité cette tradition. Elle a vu que c'était un très bon moyen de se mettre elle-même en scène dans son art, et elle a été très admirée parce que ses œuvres sont incroyables.
Une autre artiste que j'adore, c'est une peintresse anglaise du XVIIe siècle qui s'appelle Mary Beall. C'est une sorte de matriarche qui vit de sa peinture et qui organise tout son système familial autour de son activité. Elle a fait un autoportrait où elle se représente avec son mari et un de ses fils, et dans cette œuvre, elle occupe presque la moitié du tableau. Son mari la regarde, elle a le regard tourné vers nous, et elle se montre du doigt. Et ce qu'elle dit avec ce geste, c'est « Non seulement c'est moi qui ai peint cette œuvre, mais c'est moi qui fais vivre cette famille ». Avec ce tableau, elle va complètement à l'encontre des traditions du portrait de famille de l'époque, où ce qu'on voit en général, c'est un patriarche qui tient sa femme et ses enfants d'une main ferme et qui montre clairement qui est le chef. Et apparemment, la situation de Mary Beall n'était pas si rare que ça.
Well, for all I know, there are many similar examples, but...
Pour autant que je sache, il y a de nombreux exemples comme celui-ci, mais l'enjeu principal ici, ce sont les archives. En ce qui concerne Mary Beall, nous avons des documents, des traces écrites, et c'est formidable. Elle était installée près de Londres, où elle travaillait pour une sorte de classe moyenne assez aisée, le clergé, les membres de l'église qui formaient une sorte de petite noblesse locale. Et c'est grâce aux témoignages de ces personnes qu'on a aujourd'hui beaucoup d'archives sur elle. Je la trouve vraiment extraordinaire. Son mari a abandonné son poste de fonctionnaire pour devenir son agent. Et elle a aussi formé ses fils pour qu'ils l'aident à l'atelier. Et ça, c'est encore autre chose. Imaginez, en tant que femme artiste, qui pouviez-vous engager ? Les gens n'attendaient que ça, pour faire des ragots, des remarques affreuses sur vous, sur votre sexualité. Oh, elle a des hommes qui travaillent pour elle. Donc, elle a formé ses fils pour qu'ils deviennent ses assistants. Je pense que c'est une femme incroyable, tellement pleine de bon sens et si fière de ce qu'elle fait.
Depuis la Renaissance, on encourage les femmes de la bonne société à apprendre la peinture, la poésie, la musique, le dessin, mais surtout pas de façon professionnelle. Il faudrait surtout pas que ça leur permette de gagner de l'argent et d'être indépendantes. C'est ce qu'on appelle les talents d'agrément, et c'est une idée qui naît en Italie au XVIe siècle, avec un livre qui est un peu le best-seller de l'époque, qui s'appelle « Le livre du courtisan ». C'est écrit par un auteur qui s'appelle Baldassare Castiglione, et il écrit plein de trucs sur les codes en vigueur à la cour, mais il parle aussi de l'éducation des femmes. Et comme c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit, qui a été diffusé, il a eu beaucoup d'influence sur l'éducation des femmes dans toute l'Europe jusqu'au XVIIIe siècle.
On considérait qu'une femme recevait une éducation qui lui permettait d'être la compagne d'un homme, d'être là pour aider un homme. Je m'intéresse beaucoup aux manuels d'éducation et de bonne conduite des femmes. Et ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, noir sur blanc, surtout au XVIIIe siècle, c'est qu'une femme doit en savoir assez pour divertir son mari, mais elle ne doit pas être trop instruite, sinon elle pourrait ne pas être en accord avec lui ou le mettre mal à l'aise. Donc, tout l'apprentissage destiné aux femmes, c'était d'occuper la deuxième place.
Au XVIIIe siècle, il y a plein de femmes artistes qui se tournent vers le dessin et la peinture en tant qu'amatrices, parce que c'est moins menaçant, c'est vrai que c'est terrifiant une femme qui dessine, mais surtout parce que c'est parfois le seul moyen d'avoir accès à des cours particuliers. Il y a un exemple qui est assez éclairant à ce sujet, c'est celui d'une artiste anglaise qui s'appelle Maria Causeway, et qui commence par se former en Italie, dans une des rares académies où c'était déjà autorisé à l'époque. Mais par contre, quand elle rentre en Angleterre pour se marier, son mari n'est pas content et il refuse qu'elle vende des tableaux. Elle a quand même continué à dessiner parce que c'était vraiment une vocation, mais dans un autoportrait qu'elle a fait après son mariage, on se rend compte de toute la frustration que ça a pu générer chez elle. C'est un autoportrait assez étonnant pour une femme artiste, parce que justement rien permet de comprendre qu'elle est artiste. Il n'y a pas de chevalet, pas de palette, et elle se représente les bras croisés. Et elle était très consciente que c'était son mariage qui avait limité ses ambitions artistiques. Elle a écrit un journal dans lequel elle dit « Si Monsieur Causeway m'avait permis de me placer professionnellement, j'aurais fait une meilleure peintre. Mais laissée à moi-même, petit à petit, au lieu de m'améliorer, je perdis ce que j'avais acquis lors de mes études en Italie. »
Je pense que ce genre de choses arrivait tout le temps. Mais encore une fois, c'est une artiste pour laquelle on a la chance d'avoir des archives. À la fin de sa vie, elle a écrit ses mémoires et c'est grâce à ce document qu'on se rend compte que son mari voulait qu'elle arrête de peindre. Il n'aimait pas ça. Il était peintre lui aussi. Et il faisait des portraits de la famille royale. Et comme sa femme était aussi musicienne, c'était beaucoup plus valorisant pour lui si elle faisait uniquement de la musique, si elle jouait de la harpe et qu'elle chantait. Mais il y a aussi autre chose dans le fait qu'elle soit artiste. Quand on lit ces fameux livres sur l'éducation des femmes, on se rend compte qu'ils disent « D'accord, une femme peut apprendre à peindre, mais il faut qu'elle peigne à l'aquarelle, pas à l'huile. » Je l'ai vu écrit « Pas de peinture à l'huile parce que c'est sale. » Et il fallait aussi ranger tout le matériel. Il faut une pièce à part pour faire de la peinture à l'huile. Et comment une femme pouvait avoir une pièce à elle ? En Angleterre, tout le monde connaît l'exemple de Jane Austen, qui écrivait sur une petite table minuscule, dans une des pièces communes, et qui recouvrait son travail dès que quelqu'un entrait. Donc les femmes ont été bridées. À tellement de niveaux, je ne veux pas me lamenter là-dessus, mais je trouve ça fascinant que certaines femmes aient réussi à triompher de tout ça.
Une des rares artistes qui n'a pas eu à traverser toutes ces difficultés, c'est Élisabeth Vigée-Lebrun, parce qu'elle était la peintresse officielle de Marie-Antoinette. Et j'ai un petit peu honte, mais pendant longtemps, j'ai trouvé les œuvres de Vigée-Lebrun assez fades, voire un petit peu niaises, surtout ses autoportraits. C'est une femme très jolie, avec les joues roses, qui a l'air adorable et qui sourit, et qui se représente souvent avec sa petite fille tout aussi mignonne. Et c'est seulement en discutant avec Frances Borzello que je me suis rendu compte que j'avais complètement tort et que les œuvres de Vigée Lebrun sont des chefs-d'œuvre de diplomatie et d'affirmation de soi.
Elle est assez subversive à sa façon, mais pour s'en rendre compte, il faut savoir comment lire un tableau. C'est un peu une obsession chez moi, parce que l'art, c'est un langage. Ça ne suffit pas de dire « j'aime bien » ou « moi, je vois ci ou ça ». Les peintres utilisent un langage et les femmes artistes l'ont bien compris. Elles l'ont utilisé dans leur propre intérêt pour dire ce qu'elles avaient à dire. Donc Vigée Lebrun n'est jamais seulement jolie et innocente, même si elle l'est souvent. Quand elle fait ses portraits très sentimentaux, où elle est avec sa fille, ce qu'elle dit c'est « Je suis peut-être une artiste extraordinaire, mais je suis aussi une mère. » Et c'était très admiré à l'époque d'être maternelle. Et quand on regarde cet autoportrait où sa fille est assise sur ses genoux, on se rend compte qu'elle fait très clairement référence à la Vierge à l'enfant de Raphaël. Elle s'est mise en scène de la même manière que les personnages du tableau de Raphaël. C'est très audacieux. C'est ce que les hommes artistes faisaient. Ils détournaient les codes, ils les adaptaient à partir d'artistes anciens très admirés. C'est exactement ce que faisait Vigée Lebrun. Et je pense que les connaisseurs de l'époque ont compris ce qu'elle faisait. Et elle était très reconnue pour ça.
En y réfléchissant, je me suis rendu compte que mon propre blocage à reconnaître la valeur intellectuelle des œuvres de Vigée Lebrun, c'est une attitude assez commune et très condescendante qu'on a souvent vis-à-vis des femmes artistes, surtout les jeunes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se manifeste beaucoup dans la musique, par exemple. On prend un petit peu de haut toutes ces jeunes chanteuses qui ont l'air candides et innocentes, mais qui, en fait, maîtrisent très bien leur image et savent très bien ce qu'elles font. Revenons au XVIIIe siècle. Le succès d'Elisabeth Vigée Lebrun, on l'explique évidemment par son talent immense, mais aussi par un contexte social qui était spécifique à la France avant la Révolution.
Avant la Révolution, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y avait quelque chose en France qui faisait que les femmes étaient valorisées. C'était aussi l'archétype de la maîtresse royale, vous savez, la femme intelligente, pleine d'esprit. Les femmes étaient importante à cette époque. Donc je pense qu'il y a des moments dans l'histoire où les femmes sont acceptées.
Mais cette acceptation des femmes, ça reste justement une tolérance. Et ce qu'on comprend en regardant les documents de l'époque, c'est que les femmes artistes sont jugées non seulement sur leur travail, mais aussi sur leur physique. Il y a un exemple qui illustre assez bien cette situation, c'est celui d'une artiste polonaise qui s'appelle Dorothea Terbusch et qui vient s'installer à Paris dans les années 1760. Elle se fait élire à l'Académie, ce qui est plutôt classe, et évidemment, une femme à l'Académie, ça passe pas inaperçu, notamment auprès de Diderot. Diderot, c'est un philosophe des Lumières, mais c'était aussi un critique d'art très influent à l'époque. Et la seule chose qu'il trouve à dire sur l'élection de cet artiste génial, c'est, je cite, « En recevant Madame Terbusch, l'Académie ne peut être suspectée de succomber au culte de la beauté, si puissant en France, car la nouvelle académicienne n'est ni très jeune ni très jolie. » Et Diderot, ce grand esprit des Lumières, ne s'arrête pas là. Il avait l'air d'être complètement obsédé par le physique des femmes artistes, et il a écrit plein de choses très malaisantes sur le sujet. Je cite à nouveau. « Il fallait s'extasier sur le mérite de nos grands artistes, prendre de leurs leçons, avoir des tétons et des fesses et les leur abandonner. »
Je pense que c'est vraiment son fantasme à lui, mais il a raison d'une certaine façon. Les femmes artistes devaient être séduisantes, pleines d'esprit, et correspondre à ce qui était admiré à l'époque. C'est de ça qu'il parle. Je ne pense pas qu'elles aient littéralement dû coucher avec les artistes. Et si certaines l'ont fait, à vrai dire, ça m'est égal. Ce qui est intéressant, c'est la perception que Diderot avait, qu'une femme devait être charmante et flatter les hommes. À mon avis, c'est de ça qu'il est question, de ce sentiment général. Et ça reste une citation excessivement choquante.
Dorothea Terbusch, qui décidément était très cool, s'est pas laissée impressionner par Diderot et ses petits copains, et quand elle avait 56 ans, elle a fait un autoportrait, avec un gros monocle qui lui cache la moitié du visage, avec un livre ouvert, et en fait, ce qu'elle dit, c'est assez clairement que son physique, c'est pas ce qui est le plus important pour elle. Et à l'époque, il y a un artiste masculin qui s'appelle Chardin et qui est surtout connu pour ses natures mortes magnifiques, qui fait aussi un autoportrait assez similaire, avec un monocle et un fichu sur la tête. Et ce qu'on retient de l'autoportrait de Chardin, c'est un homme qui est totalement absorbé par son travail, qui a l'air concentré, qui sait ce qu'il fait, tandis que Dorothée Atterbouche a été très critiquée de se montrer dans une situation comparable et sans chercher à s'embellir. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est cette idée très masculine et très ancienne que les femmes doivent toujours faire en sorte de plaire aux hommes, même dans des contextes qui n'ont rien à voir, comme le travail par exemple. Et parfois je me dis qu'on n'a pas beaucoup évolué là-dessus depuis Diderot.
Vous me permettrez, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix de la couleur de votre tailleur. Le vert vous va effectivement à merveille.
Et c'est assez caractéristique du double standard qui entoure encore les femmes aujourd'hui. Je veux dire, on s'offusquera jamais qu'un homme public soit vieux et moche, voire les deux, mais par contre, on trouvera toujours quelque chose à dire sur l'âge et sur le physique d'une femme. Un des exemples les plus récents, c'est le président du Brésil qui fait des remarques totalement déplacées sur Brigitte Macron, mais des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Et ça concerne pas seulement le physique, c'est aussi sur la moralité et les actions des personnalités publiques. En lisant le livre de Frances Borzello, je me suis rendu compte que les femmes artistes ont toujours dû prouver leur respectabilité. Mais on n'a jamais demandé ça aux hommes. Et quand on voit aujourd'hui le nombre d'artistes célèbres qui sont des agresseurs, je me dis qu'on n'a pas beaucoup évolué là-dessus non plus. La phrase qu'on entend en permanence sur le sujet depuis des années, c'est qu'il faut distinguer l'homme de l'artiste. Mais d'une part, ça veut pas dire grand-chose, et de l'autre, on s'est jamais posé la question de distinguer la femme de l'artiste. Ce qu'on permet à ces hommes, c'est des choses qu'on permettrait jamais à des femmes dans la même situation. Alors j'ai demandé à Frances Borzello si elle connaissait l'origine de ce double standard.
Je suis incapable d'expliquer ça. C'est juste là, le double standard. Ça commence dès la Bible. On vous explique ce que doit être une femme correcte. Je pense que la figure de l'artiste masculin en tant que marginal accepté, ça remonte à très loin. Ça a toujours été là, cette image de l'homme audacieux. Et je crois que c'est encore une invention française avec ce qu'on a appelé la bohème du 19e siècle. Ça vient en grande partie d'Henri Murger qui a écrit « Scènes de la vie de la bohème » en France vers 1850. Je crois qu'il a été le premier à codifier en quelque sorte la figure de l'artiste. Il a été l'un des premiers à écrire que les artistes, et dans son livre ce sont tous des hommes, existent en dehors des normes sociales. Et qu'on ne devrait pas les punir pour ça, au contraire, on devait les admirer et prendre plaisir à lire ces histoires. Et dans ce livre, tous ces artistes ont des maîtresses, toutes ces petites femmes autour d'eux, elles ne sont rien de plus que leurs maîtresses. À la fin du 19e siècle, il se passe un événement majeur pour les femmes artistes, c'est qu'elles ont enfin le droit d'aller dans des écoles d'art. Ça existait déjà dans quelques écoles, mais dans les années 1860, ça devient vraiment un phénomène massif dans la plupart des grandes villes d'Europe. Et le fait qu'il y ait des classes entières de femmes qui viennent étudier ensemble, c'est aussi l'émergence d'une forme de sororité entre les femmes artistes. À partir du moment où les femmes ont pu accéder aux écoles d'art, à la fin du 19e siècle, je crois que l'idée d'un groupe de femmes s'est développée. J'ai vu récemment une exposition magnifique sur Hélène Schäfbeck à Londres. C'est une artiste finlandaise qui, comme beaucoup d'autres artistes à l'époque, est allée s'installer à Paris pour suivre une formation artistique. Et elle a rencontré d'autres femmes scandinaves qui étaient venues pour les mêmes raisons avec qui elle cohabitait. Donc je crois qu'à partir de là, petit à petit, il y a eu un sens de la communauté, ou en tout cas la possibilité d'une communauté qui s'est développée entre les femmes artistes.
Il y a un autoportrait qui date de cette période que j'adore, c'est celui de Berthe Morisot, où elle se représente juste avec une palette. Et ce qui est incroyable dans cette œuvre, c'est que rien n'est fini, mais c'est parfait. C'est vraiment caractéristique de l'art de Berthe Morisot qui était obsédée par l'idée de saisir l'instant et qui voyait pas l'intérêt de remplir absolument toute la toile si elle jugeait que l'œuvre était terminée. Elle a été une des premières artistes à laisser des endroits où on voit la toile, et ça a eu beaucoup d'influence ensuite sur une grande partie de l'art du XXe siècle. Mais quand je suis allée voir l'expo qui lui était consacrée au musée d'Orsay, je me suis rendu compte que pour certains critiques de l'époque, cette esthétique de l'inachevé s'était perçue comme une forme d'indécision et de timidité qui serait particulièrement féminine. Et ça, c'est vraiment révélateur d'une attitude qu'on a souvent eue à l'égard des femmes artistes, c'est-à-dire nier leur talent et les replacer en permanence dans leur statut de femme. Et même quelqu'un d'aussi génial que Berthe Morisot échappait pas à la règle.
Berthe Morisot est allée sur l'île de Wight avec son mari. Elle fait beaucoup de croquis en plein air. Et elle raconte dans son journal que son mari n'aimait pas du tout qu'elle revienne avec les cheveux en bataille à cause du vent. On ne peut pas imaginer une femme qui dirait ça à son mari parce qu'il va dessiner dehors. C'est tout simplement inimaginable. C'est tout le temps différent pour les femmes. Vous savez Rosa Bonheur, par exemple, qui était une peintre animalière du 19e siècle, voulait peindre de très grands tableaux parce que c'était la mode de l'époque. Elle voulait peindre de la même façon que les hommes. Elle était très compétitive et elle ne voyait pas pourquoi elle aurait dû se contenter de faire des petits tableaux d'animaux. Elle voulait peindre des chevaux, des vaches sur des formats immenses et c'était génial. Et pour ça, elle a dû demander une autorisation à la police française de porter un vêtement spécial, pas vraiment un pantalon, une sorte de robe un peu large. Elle a dû obtenir une autorisation écrite pour s'habiller comme ça. C'est pour ce genre de choses que j'admire autant les femmes.
Pour mieux se rendre compte des contraintes patriarcales qui pesaient encore sur les femmes artistes de cette génération, on a un document vraiment précieux. C'est le journal de Marie Bachtirtsev, une artiste ukrainienne qui est venue s'installer à Paris quand les écoles d'art se sont ouvertes aux femmes. Et elle décrit, au jour le jour, à quel point c'était compliqué d'être une femme artiste. Ce que j'attends avec impatience, c'est la liberté de circuler seule, d'aller et venir, de m'asseoir sur les chaises des Tuileries et particulièrement au Luxembourg, de m'arrêter pour regarder les boutiques d'art, pour entrer dans les églises et les musées, de marcher dans les vieilles rues la nuit. C'est ce que j'attends. Et c'est la liberté sans laquelle on ne peut devenir une véritable artiste. T'imagines-tu que je puisse trouver du bon dans ce que je vois, chaperonnée comme je le suis, et quand, pour pouvoir aller au Louvre, je dois attendre ma voiture, ma compagne féminine ou ma famille ? Ça paraît incroyable, mais c'est seulement au début du XXe siècle que les femmes accèdent à plus de liberté, notamment celle de se déplacer seules. Et c'est à cette époque qu'on voit émerger un genre d'autoportrait un peu particulier qui est assez émouvant. C'est les femmes artistes qui se mettent à représenter les lieux où elles vivent, leur chambre à elles.
J'adore ces autoportraits. Je ne pense pas qu'on les considère vraiment comme des autoportraits, mais pour moi, ce sont des autoportraits. Les femmes représentent leur chambre, et elles-mêmes sont souvent assez petites ou floues dans cette pièce. Donc, c'est vraiment plus un intérieur qu'autre chose. Ce que ça raconte surtout, c'est l'histoire de ces femmes qui arrivent de leur village et qui viennent s'installer, surtout à Paris, mais aussi à Berlin, à Londres, dans les grandes capitales où elles peuvent étudier l'art. Elles arrivent avec peu d'argent, elles partagent une chambre avec une autre artiste qui vient de la même région, et elles vivent des moments merveilleux. Elles sont libérées de l'autorité de leur père, de leur frère aîné, de la communauté dans laquelle elles ont grandi, et pour elles, ça doit évidemment être un sentiment de liberté extraordinaire. Pour moi, ces autoportraits sont incroyables, parce qu'ils montrent que la vie a changé pour ces femmes-là. Et je crois que cette première génération de femmes qui ont pu étudier dans les écoles d'art, elles pensaient, de façon légitime, qu'elles pouvaient réellement être des artistes au même titre que les hommes.
Les années 20 ont été surnommées les années folles parce que c'est une période d'effervescence culturelle et artistique et de libération relative des mœurs. À cette époque, la mode change, on voit beaucoup de femmes se couper les cheveux et pendant un temps, en tout cas, l'homosexualité est à peu près tolérée. C'est dans ce contexte que la photographe Claude Cahun commence à faire des autoportraits qui questionnent le genre en tant que performance. Et elle a été une des premières à faire ça. Dans ses premiers autoportraits, elle met en scène une forme de caricature de la féminité, où elle se prend en photo avec des perruques, avec un maquillage outrancier qui la fait ressembler à une poupée et des vêtements traditionnellement féminins. Et petit à petit, elle se met à se représenter avec les cheveux très courts ou le crâne rasé, avec des vêtements d'hommes ou dans des poses qui sont la plupart du temps réservées aux hommes. Et elle a vraiment utilisé la photo comme un moyen d'affirmer son homosexualité et une identité de genre un peu plus fluide que les schémas binaires. Cette libération progressive des corps, c'est aussi le début de la nudité dans les autoportraits féminins. Mais pour les femmes artistes, c'est d'abord passé par le fait de se montrer en train de peindre des modèles nus.
Une des tendances de l'autoportrait masculin, surtout à la fin du 19e, c'était de se représenter dans son atelier avec un modèle. Et ce modèle, c'était toujours une femme, presque tout le temps nue. Et quand j'ai commencé à travailler sur les autoportraits féminins, j'ai supposé très naïvement que les femmes allaient faire pareil. Je me suis dit, bon, bah, maintenant que les femmes ont accès aux écoles d'art, elles vont se représenter en train de peindre des hommes nus. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça m'a amené à réfléchir. Je me suis rendu compte que certes, les femmes pouvaient dessiner un modèle masculin, mais elles ne se sont pas représentées en train de peindre des hommes. Parfois, elles se montrent en train de peindre une femme nue, mais même ça, ça a pris une vingtaine d'années. Donc vous voyez ce qu'elles ont fait ? C'est emprunter les codes des artistes masculins. Et ça se comprend aussi parce qu'à cette époque, un modèle, l'idée même du modèle, c'était toujours une femme nue. Donc une femme qui peignait une femme nue, ça allait, c'était accepté.
Un des pires exemples d'artiste masculin avec son modèle, c'est Lovis Corinthe qui se représente avec un verre de vin dans une main et le sein de son modèle dans l'autre, qui est évidemment nu alors que lui est habillé. Cette femme dont Lovis Corinthe tient le sein, c'est Charlotte Bérante qui était d'abord son modèle, qui est devenue son épouse, mais qui était surtout une artiste de grand talent. Et quand elle se représente avec son modèle dans son atelier 30 ans plus tard, le modèle est certes nu, mais les deux femmes posent côte à côte sur un pied d'égalité, et on n'a pas du tout cette impression d'objectification comme dans les toiles de son mari. Petit à petit, les femmes artistes commencent aussi à se représenter nues. Mais là encore, les conventions sociales ont un peu compliqué les choses.
À cette époque, la nudité masculine dans les autoportraits, c'était quelque chose de très spécifique à l'Autriche et à l'Allemagne. Les artistes étaient complètement tourmentés, torturés par la sexualité, les femmes vampires, ce genre de choses. Et je pense que les hommes faisaient ce genre d'autoportraits, magnifiques d'ailleurs, tourmentés par les flammes de la luxure, parce que c'était un moment particulier pour eux. Mais les femmes ne faisaient pas ça. Je crois simplement que ce n'était pas ce qu'elles vivaient à l'époque. Elles avaient enfin accès aux écoles d'art, elles étudiaient, elles faisaient ce que les hommes avaient fait depuis des siècles. Elles se réunissaient dans leur chambre, elles sortaient, elles allaient manger dehors. Gwen John, par exemple, qui était une artiste anglaise, ne recevait pas d'argent de la part de son père parce qu'il n'aimait pas qu'elle aille faire l'artiste à Paris. Et comme elle n'avait pas d'argent, elle posait comme modèle pour d'autres artistes, notamment pour Rodin. Et c'était une forme de liberté, c'était joyeux de poser nue pour gagner un peu d'argent. Donc je ne pense pas qu'à cette époque, les femmes étaient tourmentées. Elles étaient trop occupées, cette génération, à apprendre à être des artistes.
Une des premières artistes qui s'est représentée nue, c'est Paula Modersohn-Baker, une artiste allemande qui a aussi été la première à se peindre enceinte. Les femmes artistes s'étaient déjà intéressées à la maternité, surtout depuis le XVIIIe siècle. Mais ce qui est nouveau avec Paula Modersohn-Baker, c'est qu'elle ne représente pas la maternité d'un point de vue social, mais elle s'intéresse à ce que ça fait à son corps. La maternité, c'est aussi un thème qui a été abordé par Frida Kahlo, mais d'une façon beaucoup plus sombre. Pour comprendre le travail de Frida Kahlo, il faut souvent revenir à un événement fondateur et dramatique, c'est un accident de la route qu'elle a eu quand elle avait 18 ans. Elle a survécu par miracle, mais ça lui a laissé des séquelles très lourdes, qu'elle a eues toute sa vie. Une des conséquences, c'est qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant, et elle en a beaucoup souffert. Elle a fait plusieurs fausses couches, et elle les a représentées dans certaines de ses œuvres, où elle montre tout ce que ça peut avoir de violent, de traumatisant et de douloureux. Frida Kahlo, c'est vraiment une artiste centrale pour l'histoire des autoportraits féminins, parce que comme elle était souvent coupée du monde à cause de toutes les opérations qu'elle a dû subir, elle s'est beaucoup peinte elle-même, simplement parce que c'était le seul sujet auquel elle avait tout le temps accès. En tout, elle a fait une quarantaine d'autoportraits, et un des points communs de ses œuvres, c'est la souffrance. Elle a été une des premières artistes à traduire, presque littéralement, la souffrance qu'elle ressentait. Dans les années 30, c'était sans équivalent pour une femme de se représenter comme ça, de façon si directe et si crue, et de montrer le corps féminin de cette façon. Mais c'est vraiment les mouvements féministes des années 70 qui vont marquer un tournant dans l'histoire de l'autoportrait féminin. En 1971, un groupe de militantes états-uniennes publie « Notre corps, nous-mêmes », un manifeste pour aider les femmes à se réapproprier leur corps. Ça parle de santé sexuelle, de contraception et de règles, et ça a eu énormément d'influence sur les autoportraits féminins. Par exemple, il y a des artistes qui se sont mises à représenter les menstruations. C'est ce qu'a fait Judy Chicago dans un autoportrait qui s'appelle « Red Flag », « Drapeau rouge », où on la voit en train de retirer son tampon. Et c'est quelque chose d'absolument nouveau pour les autoportraits, parce qu'on voit pas le visage de l'artiste. En fait, c'est une photo en noir et blanc, en gros plan sur sa vulve, où seul le sang apparaît en rouge. Il y a une autre artiste de la même époque, qui s'appelle Joan Semmel, qui a aussi beaucoup travaillé sur le nu féminin. Et elle a utilisé l'autoportrait comme une façon de questionner son regard sur son propre corps. Elle a fait plusieurs autoportraits où elle se représente nue, de son point de vue à elle, et sans aucune complaisance. Dans une interview pour le Bronx Museum, elle explique son rapport à la nudité et comment elle l'a utilisé dans ses autoportraits. Ce qui m'intéressait, c'était de subvertir le nu en tant que catégorie artistique, de pouvoir faire des nus qui avaient du sens pour moi en tant que femme, et que ce soit évident que c'était fait du point de vue d'une femme. Je voulais prendre le contre-pied de ces attitudes passives ridicules qui dominaient dans tellement de peintures classiques représentant des femmes, depuis la Renaissance jusqu'à l'art moderne. Parce que le nu a toujours été là, et c'est devenu un genre à part entière, dans lequel il ne s'agissait jamais d'une personne ou d'un individu en particulier. Donc ce que j'ai cherché à faire, c'est sortir de l'idéalisation. Je voulais que le corps soit un corps spécifique, et pas un fantasme de ce que devrait être la féminité. À partir des années 80, les femmes artistes racisées commencent à déconstruire les stéréotypes sexistes et racistes qui pèsent sur elles. C'est un constat qui vient d'abord du monde militant, où on commence à se rendre compte que les femmes qui sont pas blanches sont discriminées non seulement sur leur genre, mais aussi sur leur origine, réelle ou supposée. Et cette déconstruction, c'est un sujet qui est au cœur du travail de Chila Kumari Burman, une artiste anglaise d'origine indienne, qui utilise beaucoup l'autoportrait comme un moyen d'affirmation de son identité. Dans une œuvre qui s'appelle « 28 positions en 34 ans », elle a fait un montage de 28 vignettes de son visage qui représente tout un stéréotype raciste qu'on lui a un jour renvoyé. Elle aborde l'autoportrait comme une démarche militante qu'elle décrit ainsi. Mes autoportraits construisent une féminité qui résiste aux stéréotypes racistes de la femme asiatique, passive et exotique, prisonnière de la culture patriarcale masculine. Je deviens alors celle qui fait et qui définit ma propre image. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte à quel point les femmes artistes avaient été contraintes dans leur possibilité de se représenter depuis des siècles et à quel point le regard masculin avait totalement façonné l'histoire de l'autoportrait féminin. Alors j'ai demandé à Frances Borzello ce qu'elle imaginait pour l'avenir des autoportraits et s'il y avait des thèmes que les femmes artistes n'avaient pas encore abordés.
Je crois que certaines artistes engagées pourraient traiter, d'une façon ou d'une autre, de la pauvreté. C'est un sujet central aujourd'hui, la pauvreté, et en particulier l'effet que ça a sur les femmes, parce que ce sont toujours les femmes qui souffrent quand il y a moins d'argent. C'est une question qui a besoin d'être abordée. Je pense que c'est un sujet important, et les artistes ont toujours réussi à aborder des sujets importants, surtout depuis le XXe siècle. Donc j'espère qu'on va commencer à avoir des œuvres qui en parlent. Ce que je sais en tout cas, c'est que je peux aller dans les galeries d'art et voir les œuvres d'une femme artiste, d'une jeune femme contemporaine. Et je pense qu'elles sont tellement intelligentes, elles arrivent d'une certaine façon à résumer visuellement des préoccupations contemporaines. Je pense que c'est extraordinaire que les artistes puissent faire ça.
En y réfléchissant, je me dis que peut-être l'avenir des autoportraits féminins, c'est de sortir complètement du male gaze, du regard masculin. Mais pour ça, faudrait sortir complètement du patriarcat, et on n'en est pas encore là. Merci beaucoup à Frances Borzello d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté le premier épisode de Vénus s'épilait-elle la chatte ? Un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Voix française, Corinne Guédet. Prise de son du doublage, Fanny Cohen-Moreau. Mixage, Laureline Dabadi. Et la musique, c'est Chica de Calendario, des Cumbia Queers. Si cet épisode vous a plu, et que vous voulez m'aider à le rendre plus visible, le meilleur moyen, c'est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Toutes les références sont dans la description de l'épisode et les œuvres seront à retrouver sur le compte Instagram qui s'appelle @VénusLePodcast. Je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.